troisième partie, on s'est rapproché de Valère. On n'est pas tellement loin, hein, je dirais quoi, 200-300 mètres à peu près.
On est tout proche. Il paraît qu'au niveau tellurique, c'est un truc de fou ici.
Alors, il y a plein, ouais, il y a tellurique et puis pour les énergies.
Ouais.
J'ai la flemme de t'amener jusqu'à la pierre à Venette, mais sinon on aurait été jusque là-bas pour recharger les énergies, justement.
Regarde voir comme c'est beau.
Waouh.
En plus, on est au coucher du soleil, donc la lumière est juste... Venez voir Valère, quoi.
Oui.
En plus, je crois que là, ils ont enlevé la paroi qui cachait le cœur, parce que vous savez qu'ils ont rehaussé les couleurs à l'intérieur.
Mm-hmm.
Et ça arrive maintenant, ouais. Il n'y a pas de hasard.
Hein. Valère se redécouvre à chaque seconde.
C'est ça.
Et moi, quand j'ai découvert ton livre, j'ai vu plein de sous-couches et de sous-messages dedans. Et un des messages qui m'a parlé, c'est celui d'être à la découverte du merveilleux.
Oui, le merveilleux. C'est comme ça que j'appelle le monde des rêves. Et il y a une phrase, une petite phrase de rien du tout, hein, dans mon livre qui dit « La lucidité sans la grâce est une malédiction ». Je pense que c'est ma foi tellement vrai. Si on voit la vie telle qu'elle est puis qu'on s'arrête à ça, bien souvent on risque de déprimer. Par contre, si on a la grâce de voir dans chaque petite chose du merveilleux, alors ça rend la vie tout à fait différente. En fait, nous sommes seuls maîtres de la manière dont nous décidons de voir la vie. Alors bien sûr, c'est des théories qui ont sans doute été un million de fois évoquées. Voilà, mais j'avais besoin de l'écrire à ma façon, c'est-à-dire de manière très simple. Ce livre, c'est avant tout, je pense, le livre de la rencontre. C'est les rencontres qui nous font bouger, qui font évoluer. C'est souvent dans la rencontre que le merveilleux du merveilleux se cache. Vous vous rendez compte, Joël Cerruti, on est maintenant dans un monde où on nous a mis un masque sur le nez et la bouche, juste après nous avoir collés devant des écrans, ce qui fait que notre visage tout entier est constamment recouvert.
Donc on ne se voit plus vraiment soi-même.
C'est quelque chose de fou. Alors soit on part à la rencontre de soi, soit on cherche le moyen d'entrer en communication avec l'autre et de recréer de la rencontre. Je crois qu'aujourd'hui, ce dont les gens ont le plus besoin, c'est plus tellement d'aller dans des parcs d'attractions ou de faire des grandes vacances, c'est de rencontrer du monde, mais rencontrer vraiment.
Mmh.
Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est ce qui est ressorti des gens qui ont lu la première édition, qui me disent « ton livre, il est rassurant, ton livre, il nous donne envie de retourner visiter Valère, revenir à la rencontre de Valère, mais retourner vers les gens en fait ».
Il y a un moment très émouvant à la fin du livre, sans trop le spoiler, mais il y a un des personnages qui en accompagne un autre vers une autre porte, disons ça comme ça. Tu m'as dit, en grimpatoyant jusqu'ici, que c'est quelque chose qui est en train de t'arriver dans ta propre vie à toi. Donc on appelle ça des synchronicités.
Oui, non, mais c'est complètement fou. Hein. J'écris quelque chose et je le vis droit derrière. C'est fou. On va prendre un autre exemple tout simple, mais à un moment donné, là aussi je spoil rien, mais enfin bon, quand même, je vole entre les deux châteaux. Et l'année dernière, la première fois qu'ils ont installé la tyrolienne entre les deux châteaux, il y a justement une des personnes qui s'en occupe qui me dit « Baptiste, on a besoin de gens pour la tester, est-ce que tu serais d'accord de venir ?» quoi. Et j'ai volé entre les deux châteaux, bon, dans le sens opposé à ce que j'avais écrit, mais peu importe, c'est complètement dingue de se dire « mais ça se matérialise, jamais on a mis une tyrolienne entre ces deux châteaux avant, mm-hmm. avant ça, quoi. Donc c'est quand même incroyable. Et puis effectivement, j'ai une personne dans mon entourage maintenant qui souffre d'une maladie. Et oui, c'est évoqué aussi dans le livre. Et elle a repris ce livre et elle m'en parle beaucoup parce qu'elle me dit, elle m'a dit un jour, tu es un ange pour moi. Et. Ouais, ça faut peut-être pas le mettre dans ton article parce que y a rien de plus beau que quand quelqu'un vous dit ça.
Mm-hmm.
Ça vous donne une raison d'avoir vécu jusque là.
Mm-hmm.
Et c'est vos échecs qui vous ont conduit peut-être à vivre. C'est ça le message de ce livre, c'est que les échecs c'est pas un souci, au contraire, ils nous conduisent quelque part. Reste à savoir où. Mais gardez le cœur grand ouvert, avancez.
Bah,
puis...
Le livre, l'histoire d'amour principale du livre, elle commence sur un échec.
Oui.
Dans les années 57, il y a un pauvre peintre écorché vif qui se saoule la gueule dans la brasserie du Grand Pont, il se montre très agressif envers une pauvre sommelière débutante, et après, ça sera la plus belle histoire.
Ah oui, et ça se fait de manière très simple. Je n'ai pas voulu faire des grandes réflexions sur les relations hommes-femmes et tout ça. C'est, pour moi, ça n'avait aucune espèce d'importance. Pour moi, ce qui était important, c'était de... essayer de... Comment faire dans la vie pour voir les gens autrement, pour les faire changer? Qu'est-ce qui fait changer quelqu'un finalement? C'est souvent des petites choses, c'est un tableau, ouais. c'est des petites choses.
Moi, je dis tableau parce que c'est la façon dont le personnage se rattrape après vis-à-vis de la petite serveuse avec qui il s'est comporté de façon déplacée.
Déplacée, ouais, tout à fait. Mais lui était dans la colère. Et c'était pas. Je me suis demandé longtemps, là, Philippe, pourquoi il était comme ça, méchant. Et pourquoi il était agressif et tout. Et en fait, c'est pas parce qu'on l'a maltraité, c'est parce qu'on l'a peut-être trop bien traité pendant longtemps. Et quand on croit bien traité, des fois, on traite mal. En fait, faut faire très attention à ce qu'on fait. Mmh. L'important, c'est pas tellement de faire ce qu'on pense le mieux, c'est peut-être d'écouter ce que l'autre aurait besoin pour être aidé ou pour avancer dans sa vie. Hein. Ce n'est pas toujours ce que l'on croit qu'il faut absolument imposer aux autres.
Hein. Alors, faire ce que l'on pense le mieux, c'est la perche tendue pour la question bateau qui conclut une interview. Ouais. C'est de se dire, bon, il y a un goût de reviens-y, il y a une envie de refaire un deuxième livre, ou bien tu te dis, je porte d'abord la deuxième édition, puis après on verra.
Ouais, alors pour l'instant, effectivement, je porte la deuxième édition avec beaucoup de fierté parce que j'avais le sentiment que ce livre n'était pas encore arrivé dans les mains de quelqu'un, je ne sais pas qui. Il y a quelqu'un sur cette terre qui doit l'avoir entre les mains et qui ne l'a pas encore eu. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti. Alors, je vais porter ce livre le plus loin possible. Il faut qu'il circule. De toute façon, maintenant, il existe. Alors, il faut qu'il circule. Et puis... à la question « Est-ce que tu vas réécrire ?», je réponds toujours « C'est pas moi qui décide. C'est le merveilleux, c'est le tourmenteur. À aucun moment, quand j'ai écrit ce livre, j'ai le sentiment d'avoir écrit quelque chose. Ça n'a jamais été laborieux. J'ai juste l'impression d'avoir été les mains de quelque chose d'autre. C'est pour ça que je crois qu'un livre, il est prêt avant qu'on l'écrive. Donc pour l'instant... il y a des petites choses qui s'allument dans ma tête et dans mon cœur. Mmh. Il y aurait des choses à explorer, des choses beaucoup plus dures, mais toujours avec cette touche de magie parce que j'ai besoin de ça. Mmh. J'ai besoin de cette touche de merveilleux. Et après, on verra. Et pour ce qui est de la première page, je vous en parlais. Sylvie qui l'a dessinée, je tiens à la citer parce que c'est génial ce qu'elle a fait. En fait, elle me dit, tu vois, j'ai dessiné un être humain. C'est-à-dire qu'en bas, tu as la petite tour qui représente l'ancrage dans le sol. Ensuite, tu as les remparts qui protègent le cœur qui est représenté par la basilique. Donc, les remparts qu'on met autour de notre cœur pour se protéger. La rosace représente notre capacité à aller vers l'autre, à lui envoyer la lumière et à prendre la sienne. Donc, c'est l'ouverture sur l'autre et l'ouverture vers la rencontre qui nous mène vers le divin. Vous avez les étoiles en haut, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Et puis, cette chose à gauche qui cache le tableau, cette espèce de tache noire qui représente le tourmenteur sans lequel cette incarnation n'aurait aucun sens. Donc, pour avoir le portrait d'un être humain complet, il fallait aussi ce tourmenteur. Et voilà, donc cette première page que vous voyez, c'est pas simplement la basique de Valère dans un espèce de grand soleil de Noël, c'est un être humain.
C'est le David Chicode, ce truc, il y a plein de messages cassés dedans.
Ouais, c'était le but, ouais. J'avais envie, je me suis dit, si je fais une petite œuvre, entre guillemets, un semblant de petite œuvre, je vais aller jusqu'au bout. Et Sylvie, je crois que c'est peut-être pas trop un secret, mais enfin, elle avait très envie d'avoir un deuxième enfant, ça venait pas. Et elle a lu mon livre et dans la même période, avant qu'il sorte, hein, et dans la même période, elle apprend que ça y est, c'est bon, que le deuxième enfant va arriver. Et là, elle me dit, mais je serais tellement ravie de faire cette première page. Et là, j'ai une artiste qui me dit, j'ai envie de faire quelque chose. Pour moi, c'était rajouter une touche supplémentaire à ce livre, vous voyez. Et puis après, il y a la préface d'Yves Godin. Moi, c'est mon petit bijou, c'est mon petit bébé. Mm-hmm. Et puis la fierté d'avoir déposé quelque chose qui va rester. Et peut-être vous redonner l'envie de vous promener le nez en l'air et de ne plus regarder les pavés. Promenez-vous dans Sion, le nez en l'air, et observez ce qu'il y a C'est un truc de fou. On vit dans un endroit juste. Mais vraiment, je le dis avec toute la conviction du monde, on vit dans un endroit hors du commun.
Et tu sais ce qui est merveilleux dans cette interview ?
Non.
C'est qu'on s'est dit « tu, vous » pratiquement durant 30 minutes à peu près. Donc moi, je me suis accroché à mon « tu » et toi à ton « vous ». Mais ça, c'est une déformation radiophonique.
Oui, pense, hein. Mais ça ne peut pas exclure l'auditeur. C'est pour ça.
Mais,
c'est ça.
Mais,
le « tu » a tendance à exclure l'auditeur.
Et puis l'autre truc, c'est qu'on vient de faire en gros 30 minutes de radio. Parce que pour moi, le podcast, c'est de la radio.
Ouais.
Et on n'a pas de pub.
Ah, ça fait du bien. Hein.
Ah, ça respire.
Ça fait du bien. Vous savez que j'ai fait de la radio pendant longtemps.
Oui.
Et c'était ma grande souffrance, c'est qu'on était toujours limité dans le temps. Bon, ben voilà, on est plutôt dans la génération zapping.
Mmh.
On dit hein, sur les réseaux sociaux, les gens, ils regardent. Allez, 3 secondes, une vidéo, si ça ne leur parle pas, ils passent à autre chose. Je pense qu'il vaut la peine de temps en temps de savoir s'arrêter.
De souffler.
Ouais.
Et ce qui est bien avec le podcast, là, que les gens vont écouter religieusement les 3 parties, c'est qu'on peut faire plein d'autres choses autour. On peut faire du repassage, on peut faire du ménage, et tout en écoutant ce qu'on raconte.
Oui, hein, absolument.
Elle n'est pas belle, la vie domestique.
Alors, si vous êtes en train de cuisiner, bon appétit.
Bon appétit.
Si vous êtes en train de faire la lessive, bon courage.
Ok. Eh bien, c'est terminé. Merci beaucoup.
Merci à vous.